Ce dimanche, nous avons quatre petits textes. Le premier est tiré de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez dans la détresse, consacrez-vous assidûment à la prière. Le deuxième texte est tiré de l'épître de Jacques, au chapitre 2, les versets 22 à 25. Ah non, non, excusez-moi, c'est le chapitre 1. Je suis perdu. Je suis déjà perdu au deuxième texte. Alors. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Alors, le troisième texte est tiré du psaume 25, le verset 10. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté, pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Et enfin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 12 à 15, sur lesquels s'appuiera la prédication. Aussitôt, l'Esprit le chasse au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. »
Alors, en découvrant la parole du jour dans Parole pour tous, une première question m'apparaît immédiatement, premier dimanche de carême. Qu'est-ce que le carême ? Qu'est-ce que ce mot signifie pour moi ? Est-ce qu'il fait partie de ma vie ? Que veulent dire ces 40 jours qui nous séparent de Pâques et qui seraient dédiés au carême ? Est-ce qu'ils ont une importance quelconque dans ma vie de protestante, éloignée des obligations dogmatiques, peu habituelles dans nos pratiques? D'ailleurs, le mot pratique n'est pas étranger à mon questionnement. Alors, qu'est-ce que c'est le carême? Cette notion m'a toujours semblé reliée à la notion de privation, de contrainte, de jeûne. J'ai vu et entendu autour de moi, lorsque j'étais petite, des attitudes qui montraient plutôt que cette période n'était pas drôle. Bientôt, Jésus allait mourir sur la croix. Il fallait vivre un certain ascétisme en vue de ce moment tragique. Notre manière de nous comporter devait-il changer pendant ce temps particulier? Mais alors, que faire pour nous, protestants, de la grâce reçue gratuitement pour le pardon de nos fautes? Cette grâce serait-elle insuffisante? Et nous aurions à faire des efforts supplémentaires pour obtenir ce salut offert gratuitement, pourtant? Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction flagrante entre ce qui fait le pivot de notre foi, l'assurance d'être aimé et reçu tel que nous sommes par Dieu, et une nécessité de faire de nos œuvres un acte décisif d'accès au salut? Et d'ailleurs, une autre question, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que c'est le salut? De quoi devons-nous être sauvés? Le carême peut-il servir à nous sauver? On voit bien que ce questionnement nous mène directement à une prise de position spécifique à la réforme. Toutefois, le fait de conserver cette notion de carême nous pousse à comprendre ce que ce carême signifie pour nous. On va revenir au texte de Marc. Jésus a reçu le baptême donné par Jean-Baptiste. Baptême, on l'a vu, qui n'est pas fait seulement pour se laver de ses fautes telles qu'il était pratiqué dans le judaïsme de son temps, mais qui a été le moment de l'engendrement de Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. L'Esprit de Dieu, sous forme de colombe, signifie la mission qui sera désormais celle de l'homme Jésus. Et ensuite, nous dit le texte, après ce baptême, Jésus est aussitôt chassé au désert. On sent que la confrontation va être rude, puisqu'elle va opposer Jésus à Satan. Alors, dans l'évangile de Marc, on n'a pas, comme dans l'évangile de Luc, le détail des tentations que va vivre Jésus. Mais on sait que Satan, le diable, est un adversaire, un diviseur, un qui sépare. On nous dit dans le texte que Jésus est avec les bêtes sauvages et que les anges le servaient. Alors ces deux groupes, anges et bêtes, peuvent sembler incompatibles et peuvent bien nous dire dans quelle difficulté va se trouver Jésus. Toutefois, il n'est pas exceptionnel de trouver des bêtes sauvages dans le désert, et le fait que les anges le servent exprime le soutien du Père dans cette confrontation de Jésus avec le mal. Les bêtes sauvages, alors, pourraient simplement signifier la place de Jésus au sein de la création. Si Satan est un diviseur, la lutte qui se vit ici exprime le choix qui est à faire devant les situations que vit Jésus au désert. On connaît dans l'évangile de Luc le détail de ces luttes entre bien et mal. La vie matérielle, le pouvoir, le culte au Dieu unique seront les provocations qui mèneront Jésus à vaincre Satan. Ce passage au désert marquera pour Jésus l'essentiel de sa mission parmi ses semblables. Il résume parfaitement la lutte incessante qui est celle de chacun. Dans la lettre de Paul aux Romains, nous lisons « Ne vous conformez point à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. » Dans quelle situation, dans notre monde, sommes-nous confrontés au mal ? Quel chemin nous indique Jésus dans sa confrontation avec Satan dans le désert ? Quel parallèle pouvons-nous faire avec ce qui quotidiennement fait notre vie et ce que lui a rencontré? Sans cesse, nous avons à discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas, comme Jésus nous l'indique. Ce qui nous fait acteurs devant Dieu de nos engagements personnels et ce qui nous éloigne du chemin, du bon chemin. Se conformer à ce monde-ci, être assujetti à ce monde, serait oublier Dieu. Ce serait nous perdre dans un monde fait d'ambition, de pouvoir, de séduction. Sans cesse, nous avons devant nous des choix à faire, et des choix qui sont très souvent difficiles, car ils mettent devant nous, tel Jésus au désert, ce qui flatte notre ego, ce qui permet notre confort, sans voir ce qui peut nuire à autrui ou au reste du monde, ce qui nous fait adorateurs de la matérialité, adorateurs de la richesse. Privilégier notre facilité de vie, même si cela nous fait perdre de vue que certains de nos frères dorment dans la rue. Oui, sans cesse nous sommes dans le désert. Et nous avons à nous tourner vers les anges qui nous défendent. Pas en comptant sur des petits personnages magiques, mais en comptant sur notre réflexion concernant nos choix, en nous sentant soutenus par la parole que Jésus nous enseigne. C'est-à-dire que, une fois de plus, nous avons à nous transformer, à nous renouveler. Nous avons à aiguiser notre conscience, à ne pas faire comme tout le monde, mais nous devons nous interroger chaque jour sur ce qui fait notre salut. Voilà l'autre question du jour, le salut. Qu'est-ce que c'est qu'être sauvé ? De quoi ? De quoi être sauvé ? Doit-on œuvrer pour notre salut ou doit-on chercher à accepter une relation avec Dieu ? Un changement de nos vies en remerciement de la grâce ? Qu'est la foi sans les actes ? Le salut, c'est la recherche de sens qui nous met en action. À quoi sert d'avoir la foi sans chercher une relation d'amour et d'attention aux autres? Le salut ne serait-il pas un positionnement actif dans la société dans laquelle nous vivons? Bien des participations sont possibles, allant du simple bénévolat dans une association à l'attention aidante et souriante vers celui qui mendie à la porte de notre magasin, à un choix humain et réfléchi du bulletin de vote que nous glissons dans l'urne, sans penser que tout cela ne nous concerne pas. Aussi à l'aide et au soutien dans nos familles, au partage amicaux des moments difficiles. N'est-ce pas cela qui nous sauve ? Alors, de quoi sommes-nous ainsi sauvés ? En faisant tout cela, nous sommes sauvés de la solitude, de l'indifférence, d'un abandon de notre vraie place au profit des yeux qui regardent ailleurs. Je suis, dit le Seigneur, être et être pleinement, être en recherche de sens dans nos vies, n'est-ce pas cela, être sauvé ? Alors oui, en effet, la foi sans les actes, cela n'a pas beaucoup de sens. Non pas dans une relation donnant-donnant avec Dieu, non pas dans un marchandage, j'ai bien agi, alors tu me donnes le salut. Mais comme je sais que tu me connais tel que je suis, que tu m'aimes tel que je suis, je vais faire tout ce que je peux pour agir selon ta volonté de bien dans ce monde. Nous pouvons lire dans l'épître de Jacques, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Et c'est cette mise en pratique qui peut nous sauver. Le texte de Marc nous dit « Croyez à la bonne nouvelle ». Croyez à la bonne nouvelle, à qui ça s'adresse ? Le texte nous indique que Jésus circule et a des auditoires variés. Il reçoit le baptême en Judée, puis il repart en Galilée. Il parle à tous. Il proclame l'Évangile en montrant que tous doivent changer. On nous dit plus loin que ceux qui l'écoutent sont ébahis par son enseignement. En clair, ils ne comprennent pas, ils sont surpris, ils sont déboussolés. Et nous, qu'est-ce que nous comprenons ? Et qu'est-ce que nous mettons en pratique ? Et comment mettons-nous en pratique ? Alors revenons à notre idée de carême. Le carême serait-il le moment idéal ? Le moment particulier où nous pourrions chercher à comprendre ce que Jésus nous enseigne et qui correspond à la volonté de Dieu pour le monde. Ne serait-ce pas dans cette recherche que se trouverait le salut ? sortir de la petitesse du monde pour accéder au royaume tel que Jésus nous l'indique. Alors, qu'est-ce que le carême pour moi ? Il pourrait être un temps de combat, comme Jésus au désert, où j'aurais à regarder honnêtement ce qui sont les véritables moteurs habituels de mes actions et de mes ressentis. Ça pourrait être un temps qui m'aiderait à repousser la facilité, à prendre conscience honnêtement de ce que je pense vraiment, à oser être moi-même sans crainte d'être mal vu, mais en affirmant ce qui est peut-être à contre-courant de la pensée commune, accepter mes insuffisances. Non, nous ne pouvons pas tout faire parfaitement, mais faisons de notre mieux, ça sera déjà beaucoup. Peut-être que le carême, pour moi, c'est aussi accepter ce qui ne m'appartient pas, accepter ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras et attendre que les choses se passent. Non, parce qu'on a vu que la foi sans un comportement actif n'est pas porteur de sens. Mais nous devons nous libérer d'un monde qui peut nous étouffer, qui peut manipuler notre sens de l'écoute, du discernement. N'écoutons pas chanter les sirènes. Et nous avons de quoi entendre des sirènes. Ce temps de carême est un moment privilégié qui peut nous permettre notre permanente transformation. 40 jours, peu à peu, tranquillement, nous mène au temps de la résurrection, à cette vie renouvelée que le Seigneur nous offre. Amen.